Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Choc FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Racine Franco. Ici Nathalie Salmeron, comme d'habitude avec vous. Et je vous rappelle au passage que Racine Franco, c'est cette nouvelle émission radio et vidéo hebdomadaire qui vise à mieux faire connaître et à partager les différentes composantes de la culture francophone ontarienne actuelle. Bref, plus simplement, en vrai, j'ai juste allé à la rencontre de belles personnes dans notre belle communauté francophone. Et ensemble, on va parler de leur région ou de leur pays d'origine. Et puis, savoir en connaître un petit peu plus sur leur culture. Et surtout, de comment ils arrivent à vivre leur francophonie ici à Toronto. Aujourd'hui, avec moi, j'ai la chance d'avoir Madé Rose Amian. Comment ça va, ma belle, aujourd'hui?
Je vais très bien, Nathalie, et toi?
Ben écoute, ça va, ça me fait très plaisir de te retrouver parce que toi, tu as eu la chance de faire un stage ici chez Choc FM il y a quelque temps. Donc tu connais un petit peu les murs, tu connais un petit peu la maison. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus à toi, à ton histoire, à ton parcours. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques lignes pour les auditeurs de Choc FM 105.1 qui ne te connaissent peut-être pas encore?
Bonjour les auditeurs de Choc FM, moi c'est Madé Rose Amian. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu à faire le stage pendant l'été avec Choc FM. Eh bien, je suis étudiante à l'Université de l'Ontario français. C'est pas pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en plein downtown. J'étudie la pluralité humaine. Je pense que c'est ça. Et je suis ivoirienne, je viens de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, ou bien pour ceux qui ont suivi la Coupe d'Afrique des Nations, c'est nous qui sommes les champions actuellement.
Donc félicitations parce que je vois que ça a l'air de tenir
Merci.
à cœur. Tous les Ivoiriens en ce moment sont très 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 contents d'un point de vue
Oui.
sportif. Donc encore félicitations. C'est vrai que c'était une grande compétition que vous avez gagnée haut la main. Donc chapeau. Alors justement, tu l'as dit, toi tu viens de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu penses avoir ramené avec toi dans tes valises, dans tes petits sacs quand t'es arrivé? Parce que ça fait pas si longtemps que ça que toi t'es arrivé à Toronto. Qu'est-ce que tu penses avoir ramené avec toi de ta culture ivoirienne ici à Toronto?
Déjà, il y a la langue. Quand je parle, bon, c'est certes qu'il y a des personnes qui, quand ils m'abordent dans la rue, vu que je parle en anglais, d'autres se demandent si je suis nigérienne, je suis ghanéenne, parce que si je suis africaine, ils vont forcément se demander, vu que c'est là-bas qu'on parle le français. Mais là, je vais dire que je suis ivoirienne. Mais quand je commence à parler pour quelqu'un qui est ivoirien, il sait déjà automatiquement que je suis ivoirienne, à cause déjà de l'accent, et à cause de certains mots, à cause du nushi. Nushi, c'est comme, je sais pas dire un dialecte ou une langue, mais c'est plus une manière de parler en français. Genre, on a notre façon de dire nos mots, nos phrases et tout ça, c'est propre à la Côte d'Ivoire. Comme tu disais, qu'est-ce que j'ai ramené déjà au pays? L'attiéké, le plat de la Côte d'Ivoire. Je peux pas aucun Ivoirien ne peut voyager sans attiéké. Pour ceux qui connaissent pas, c'est de la semoule de manioc fermentée et on peut consommer avec du poisson thon qui fait notre plat le garba. C'est notre plat, le plat de la Côte d'Ivoire. Et aussi, on a plusieurs plats comme le foutou sauce graine, poulet braisé, je sais pas, poisson braisé, tout plat kali, sauce gombo, etc., etc. Mais ce que j'ai pris pour venir au Canada, c'est surtout ma langue, mon accent, parce que je suis toujours fière d'assumer que je suis ivoirienne, sans oublier mes boules d'attiéké.
C'est vrai
Oui.
que c'est important. Et de quoi t'es la plus nostalgique par rapport à la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des trucs qui te manquent? Et des petits trucs, tu te dis, ah, là-bas, c'est quand même différent. De quoi t'es le plus nostalgique, Madé Rose?
C'est plus la nourriture. Plus la nourriture.
C'est
Certes que
souvent ce
j'ai
que j'ai à
pris.
cette réponse. Quand je pose
Oui.
cette question, la réponse est souvent soit la nourriture, soit la chaleur humaine du pays qui
Oui.
manque un peu, ou alors la famille. C'est le top 3, je dirais, à chaque fois.
Mais bon, par rapport à la famille, ma famille est là. Ma famille est ici. Ma famille fait juste la navette, dont on a l'occasion de se voir un peu tout le temps. Donc la famille, ça va. Mais comme ils ont dit, c'est vrai, c'est la nourriture. Parce que certes que tu vas ramener ça du pays, mais la nourriture faite sur place est toujours meilleure. Toujours. Par rapport à la chaleur, je dirais que on était dans les 32 degrés, donc
Non, quand
c'est
je parlais
quand
de
même
chaleur, je parlais
chaud.
plus de chaleur humaine, tu sais,
Chaleur
d'être
humaine.
entouré de gens, l'accueil, le côté bienveillant. Des fois, dans
Oui,
certaines cultures,
c'est
certaines
vrai.
communautés, c'est quelque chose qui vont leur manquer un petit peu.
C'est vrai déjà, parce que là, c'était un choc quand je suis arrivée ici et puis j'ai constaté que chacun était concentré sur sa propre vie. Parce que là-bas, tout le monde est content, on te salue, on parle avec toi, on parle avec les inconnus, on t'aborde tout le temps. Mais ici, chacun est concentré sur sa vie. Donc, je pourrais dire que vraiment, l'entourage dans mon pays, ça me manque un peu. Mais ce qui me manque le plus, c'est la nourriture. La nourriture, vraiment.
Et comment elle est la communauté ivoirienne ici? Je pense que justement, peut-être grâce à cette Coupe d'Afrique des Nations, ça a pu permettre à la communauté ivoirienne de se retrouver à des endroits pour
Oui.
pouvoir profiter des matchs et tout. Mais est-ce que avant ça, tu avais remarqué à quel point elle était grande, à quel point elle était imposante? Ou alors, au contraire, tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas tant d'ivoiriens que ça? Comment tu la trouves, cette communauté, et comment elle est répartie un petit peu ici à Toronto?
Déjà, j'ai su qu'il y avait une communauté ivoirienne grâce à ma famille, parce que on vivait à Mississauga et c'est à Mississauga il y a plus d'Ivoiriens. Donc ma famille et ses amis se sont retrouvés, ils ont créé une communauté. Et quand il y a eu la CAN, vu qu'il y avait il y a une église où tous les Ivoiriens ont l'habitude de partir, tous les Ivoiriens de Mississauga précisément, c'est déjà une église francophone. Ça s'appelle Église Sainte Famille. C'est situé en plein dans l'école Sainte Famille. Vu qu'ils savaient que tous les Ivoiriens se rassemblaient là-bas tous les dimanches, ils ont profité pour faire une salle où ils allaient regarder ensemble, ils allaient vivre la CAN et tout ça, les victoires. Et aussi, à l'université, on est pratiquement juste, je pourrais dire, sur 500 ou 400 élèves étudiants, on est juste 10. Donc, on est vraiment en minorité. On a su vivre la CAN ensemble.
Mais au-delà
C'était
de la CAN,
pas
est-ce qu'il y avait des... Tu disais, tu parlais de cette église. Est-ce que justement c'était un endroit qui est rassembleur,
rassembleur.
justement, cette église? Ou alors c'est un peu difficile au-delà de ça de savoir qui est ivoirien et qui a envie de profiter de la culture et de la communauté pour faire des choses ensemble, se retrouver, partager un match ou partager des repas ou juste partager des moments ensemble, en fait?
Je dirais que c'est plus l'Église qui les a rassemblés. Parce que comme on sait déjà dans la religion bon, chrétienne, catholique, quand tu finis la messe et tout, on te demande de faire la connaissance de tes frères en Christ, tout ça. Donc, après la messe, on se rejoint, d'autres parlent, d'autres communiquent. Ils vont se poser les questions, par exemple, tu fais quel travail, ta famille, tu viens de quel pays. Mais une fois que tu parles, on sait déjà que tu es Camerounais ou tu es Ivoirien. Déjà dans ton accent, on sait déjà. Et quand une personne entend, automatiquement, c'est « Ah, mon frère ivoirien, ma sœur ivoirienne. » Et là, c'est comme ça, petit à petit, on dit « Ah, mais on a créé une communauté ivoirienne. Tu veux qu'on t'ajoute au groupe ?» au fur et à mesure, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et là, vraiment, on a créé une grande communauté. Je savais pas qu'il y avait autant d'ivoiriens à Toronto.
Comment ça s'est passé, Madeiros, ton parcours d'intégration? Parce que toi, ça fait pas si longtemps que ça que t'es là. Rappelle-nous un petit peu quand est-ce que t'es arrivée et comment ça s'est passé? Est-ce que bah, le fait d'être entouré de ta famille, ça a facilité ou est-ce que c'était plus difficile? Les premiers pas, l'école, tes repères ici. Comment ça s'est passé ton parcours d'intégration, Madeiros?
Déjà, je suis arrivée le 10 septembre 2022. Donc, ça fait pratiquement presque 2 ans que je suis là. Au départ, c'était pas tellement difficile que ça parce que j'avais l'appui de ma famille. Mais bon, pour aller à l'université, je partais seule, je vivais à Mississauga. Donc, j'étais pratiquement à 1 heure de l'université vu que je prenais le train. Mais si je devais prendre un autre moyen de transport, par exemple, le bus, j'allais être carrément à 2 heures. Donc, c'était un peu compliqué. Mais bon, vu que j'étais aussi à l'école en temps partiel, je partais juste 3 jours à l'école et le reste de la semaine, j'étais à la maison. Donc, quand je suis à la maison comme ça, je profitais pour prendre mes repères, pour ne pas me perdre. C'est vrai que je me suis perdue plusieurs fois, c'était pas vraiment facile avec les bus, les arrêts. Quand tu pars, tu prends le nord, après tu dois prendre le sud, tu prends l'est. C'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Mais bon, après, j'avais l'appui de ma famille, c'est bien passé. Et là, maintenant, j'ai décidé de ne plus être avec ma famille. Vu que je suis majeure, j'ai décidé d'être seule. Donc là, je vis à au moins à 50 minutes, 40 minutes de l'université. Donc c'est vraiment facile pour moi de me déplacer. Je peux au moins profiter de mon temps avant d'aller à l'école. Ce que je pouvais pas faire avant, vu que j'étais obligée de me lever tôt, sortir tôt, tout ça. Mais là, maintenant, vu que je suis pas loin de l'université, c'est plus facile pour moi.
Est-ce que tu dirais que ce serait quoi les principaux défis auxquels tu as dû être confronté? Est-ce que c'était la barrière de la langue? Est-ce que justement c'était le fait d'être en famille et que c'était pas forcément un avantage puisque au final tu as pris ton envol et tu as voulu avoir ta petite intimité à toi sans vivre sous
Mmh.
le toit familial, on va dire. C'était quoi pour toi les principaux défis et comment tu as pu les surmonter au final?
Bon, j'ai pas dit que la barrière linguistique était vraiment un défi, mais c'est vrai qu'il y a certains mots que je maîtrisais pas, il y a certaines conversations que je pouvais pas facilement engager. Donc, ma solution, c'était plus, déjà à l'Université de l'Ontario français. Je pense que peut-être c'est parce que c'est une nouvelle université, mais parce qu'on est en minorité et que c'est le français. On est plutôt soudés là-bas. Donc, j'avais eu recours à demander à des amis de m'aider. Par exemple, si j'ai des papiers à faire ou des trucs auxquels je devais répondre. Par exemple, quand je cherchais la maison, c'est plus mon ami qui communiquait avec les agents, tout ça, pour m'aider à trouver les apparts qui pouvaient négocier facilement avec eux, puis que moi je pouvais pas le faire. Mais à force d'apprendre, je pense que là maintenant ça va. Donc, au niveau de la langue, ça va un peu quand même. Mais comme autre défi, je pourrais dire le climat. Le climat m'a beaucoup fatiguée, vraiment beaucoup fatiguée, parce que quitter dans la chaleur, les de 32, 32 degrés, parfois 33 degrés, et être se retrouver à moins 10, moins 12,
Ouais, et encore, c'est
c'est
léger. Moins
vraiment.
10, t'es gentil, parce que ça peut aller encore plus froid à Toronto.
Oui, parce que mon premier hiver était vraiment rude, vraiment, vraiment rude. J'ai eu du mal, mais bon, quand je vois cet hiver, je dis vraiment aux autres que si vous étiez là l'année passée, vous auriez compris. Parce que cette année, c'est comme si on est en plein été. Il fait même pas froid. Pas du tout. Donc c'était là, c'était ça, c'était le climat qui était vraiment un défi pour moi.
Et est-ce que dans ton parcours d'intégration, tu as fait appel à des organismes ou à des programmes qui existent ici pour aider justement les nouveaux arrivants francophones, ou alors tu t'es plus appuyé sur tes amis et les connaissances que tu as fait à l'école?
Bon, le premier étaient mes amis. C'était mes amis qui avaient eu recours à leur expliquer quand j'avais besoin vraiment d'aide. C'était plus mes amis. Mais après, j'ai eu à solliciter le Centre francophone de l'Ontario. C'est eux qui m'aidaient. Autant je cherchais, après mon stage, je cherchais un petit job à faire pendant mes cours, vu que je suis encore à temps partiel. Donc, c'est eux qui m'aidaient. Ils m'ont aidé pour la rédaction de mon CV. Tout ça pour, dès ils ont de nouvelles opportunités, ils m'envoient toujours les liens, déposent ton CV là, et vraiment, ils m'ont accompagné. J'ai vraiment eu assez de ressources avec le Centre francophone de l'Ontario.
Et selon toi, Madero, c'est quoi les défis auxquels les francophones, les nouveaux arrivants, ils sont confrontés en arrivant? Est-ce que justement, toi, tu disais le climat, on a parlé un petit peu aussi de barrière de la langue, de certains trucs où on n'est pas forcément habitué, chercher un appartement ici à Toronto, c'est différent de le faire dans son pays d'origine, forcément, parce qu'on va te demander des papiers différents, ou juste l'organisation est un peu différente. Ici, on sait que, par exemple, les agents immobiliers, ils sont pas à la charge du locataire, mais à la charge du propriétaire. Bref, c'est plein de petits détails qui sont un petit peu différents. Mais selon toi, qu'est-ce que tu dirais si je te dis, voilà, c'est quoi les défis auxquels les nouveaux arrivants francophones y sont confrontés le plus?
Comme tu as dit, c'est surtout le logement. C'est parfois difficile de se trouver un logement, surtout quand tu es seul, surtout pour ceux qui sont vraiment introvertis, parce qu'il y a vraiment beaucoup de... C'est vraiment pas à négliger, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller voir les gens pour leur expliquer leurs problèmes, tout ça. Non, je pourrais dire que c'est vraiment un gros problème pour les nouveaux arrivants. Les gens ne pas savoir s'exprimer en anglais parfaitement et ne pas avoir d'appui, c'est-à-dire les amis, la famille, tout ça. Déjà, le logement, c'est aussi chercher le logement, c'est aussi un travail à temps plein. Parce que c'est vraiment pas du tout facile. Pas du tout. Moi-même, pour trouver un logement, j'ai eu à... C'est avec l'appui de mon oncle, ma famille. Sinon, seul, je pourrais pas. C'était vraiment difficile. Même pour les visites, c'était mes amis qui m'accompagnaient parce que je pouvais pas aller seul. Tout ça. Mais je peux dire vraiment, les gros défis des nouveaux arrivants, si c'est pas la barrière linguistique, le climat, le logement, je sais pas, ça pourrait être quoi d'autre. Peut-être aussi la nourriture, parce qu'il y a certaines personnes qui sont compliquées en nourriture. Moi aussi, j'étais vraiment compliquée au niveau de la nourriture parce que tant que j'ai pas de la nourriture, par exemple, africaine, je ne mange pas. Parce que tout ça, les McDo, les burgers, ça me faisait grossir. Donc, je disais, bon, je veux pas manger trop de gras. Mais quand j'ai la nourriture de mon pays, je me sens plus à l'aise. plus à l'aise, plus confiante. Je sais pas, j'ai la nostalgie de mon pays. Voilà. Sinon, c'est ça les gros défis.
Et du coup, tu donnerais quoi comme conseil, Madérose, aux gens pour que justement ils arrivent à surmonter ces défis sans trop de difficultés, ou en tout cas, ils arrivent à se dire, bon, bah, ça risque d'être dur un peu, mais si je prends sur moi, ça va aller, parce que j'ai reçu des bons conseils. Ce serait quoi, toi, tes conseils?
Déjà, le gros conseil que je peux donner, c'est plutôt de s'ouvrir, de ne pas se renfermer. Parce que ça sert à rien. Plus t'es renfermé, plus tu sais pas à qui parler. Pourtant, il y a tellement de personnes à qui je peux parler. Même à l'université, c'est pareil. On nous donne certains services avec qui on peut communiquer. Même si on a un problème, on peut les appeler. On a des personnes qui s'occupent, de la santé mentale et tout. On peut leur parler facilement. Donc, le conseil que je peux donner, c'est plus de s'ouvrir, de découvrir, de participer. Même si c'est un nouvel arrivant, il n'a pas de connaissances. Il y a certaines activités. Il y a le bénévolat. Tu peux aller, je sais pas, même à la salle de gym. Les amis, on s'en fait partout. Donc, plus tu as des connaissances, plus ça sera plus aisé pour toi de t'insérer dans la société.
Tout à l'heure, tu disais que c'était aussi des fois un peu difficile parce que quand on est introverti, bah, faut sortir de sa zone de
Oui.
confort un petit peu pour aller à la rencontre des autres.
Oui.
Comment justement on arrive à réussir à aborder des gens quand on est un peu timide et qu'on n'ose pas trop et que l'anglais c'est pas trop trop ça, on sait qu'on va faire 15 fautes dans la phrase, mais qu'on a quand même envie d'aide ou juste de connecter avec des gens. Est-ce que c'est là où c'est le plus dur et où faut prendre sur soi justement selon toi?
Concernant ça, moi je pourrais dire, les anglophones sont plutôt patients. Très patient, plutôt compréhensible, contrairement aux francophones. Parce que je prends exemple peut-être chez nous, si tu ne parles pas français, déjà même si tu ne parles pas bien le français, on va commencer à rire. On va commencer à rire, ça va te mettre tellement mal à l'aise. Parce qu'on va toujours se moquer, on a toujours la joie de vivre en fait. Pourtant, si c'est un anglophone, j'ai fait plusieurs fois les fautes, j'ai fait plusieurs fautes. Et un jour, avec quelqu'un avec qui je parlais, il m'a dit, oh, tu parles français, ça se sent tellement dans ton accent. N'aie pas peur de parler, parle. Et ils ont dit non, on va pas se moquer, on ne se moque pas. Ça fait pas rire. En anglais, ça fait pas rire. Quand j'ai demandé, on m'a dit ça fait pas du tout rire. Et au
Peut-être parce
contraire.
que aussi au Canada, on sait que tout le monde vient un peu d'ailleurs et que du coup, ça ouvre
Exactement.
un petit peu les esprits sur, bah, ok, toi, tu as un accent qui vient de là parce que forcément, tu parles une autre langue. Moi, j'ai un accent qui vient de là parce que je viens d'un autre pays.
Ouais. Pour quelqu'un aussi d'introverti, moi je peux dire, moi aussi je suis introverti, mais j'ai su sortir de ma zone de confort grâce à mes amis. Déjà à l'Afrique, on sait, c'est tellement facile de se faire les amis, surtout pour quelqu'un de timide, ils vont toujours t'approcher, toujours t'approcher. Et à force de m'approcher, j'ai su sortir de ma zone de confort, j'ai su interagir facilement avec les autres, tout ça. C'est juste ça pour les introvertis, c'est juste sortir de sa zone de confort. Parce que tu ne peux pas seul. Tu ne peux vraiment pas seul. Il faut toujours que tu aies l'aide ou l'appui de quelqu'un. Toujours. Surtout ici au Canada, c'est très compliqué.
Alors justement, ici au Canada, quand tu parles français dans la rue, moi j'ai remarqué que on va te dire, ah, tu parles français, tu viens de France ou tu viens du Québec. T'as toujours ces deux trucs-là, comme si dans le monde, il n'y avait que ces deux endroits où tu étais capable de parler en français. On oublie que beaucoup, beaucoup de pays en Afrique parlent français, en Belgique ça parle français, en Suisse aussi. Bref, je veux dire, en vrai, il y a des gens qui parlent français partout. Haïti, ça parle français et ils sont plus près du Canada que nous, on l'est de France, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce constat de se dire, tu parles français, donc soit tu viens de France, soit tu viens du Québec. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de ce truc-là? Et est-ce que tu penses que le fait de montrer de plus en plus que la francophonie, elle est diverse, tu vois, justement, je pense à la CAN, et je me dis que c'est génial des événements comme ça, parce que ça rappelle que ça doit être un grand événement africain, du continent africain, on parle plein de langues, ça se réunit, ça parle, ça rigole dans des langues différentes, à moitié l'anglais, à moitié les dialectes du pays, à moitié le français. Et justement, est-ce que toi, tu penses que mettre en avant toutes ces cultures différentes qui existent dans la francophonie, ça permet d'ouvrir encore un peu plus les esprits des gens et aussi peut-être de lutter un petit peu contre la discrimination de soit tu viens de France, soit tu viens du Québec?
Oui, je pense que ça serait vraiment une bonne idée de montrer à certaines personnes que la francophonie ne se résume pas seulement à la France ni au Québec. Parce que c'est quand même un peu compréhensible. À certaines personnes, ils font déjà le lien. Vu que tu parles français, on te dit déjà tu viens de France. Pourtant, c'est pas ça. Ils oublient qu'en Afrique, il y a certains pays déjà qui parlent français. Il y a aussi certains pays qui parlent l'anglais. C'est ce qu'ils oublient. Je pense que c'est certaines personnes qui ont ce manque d'information. Ils n'ont pas, ils savent pas nécessairement que il y a d'autres personnes qui parlent français en dépit du Québec et de la France, tout ça. Mais bon, moi je les en veux pas pour ça parce que je sais que c'est juste le manque d'information. Mais pour moi, je peux dire c'est pour certaines personnes ça peut être peut-être frustrant de se dire bon, on ne connaît pas mon pays. J'ai eu à rencontrer plusieurs personnes. Quand je dis Côte d'Ivoire, elle me dit, c'est quoi Côte d'Ivoire? C'est où Côte d'Ivoire? Je dis, c'est en Afrique de l'Ouest. Je suis allée même décrire mon pays et montrer le drapeau. Vraiment, des fois, c'est un peu triste de savoir que certaines personnes ne sont pas assez cultivées. Parce que c'est ça. Si tu étais cultivée, là, tu allais au moins savoir que en Afrique, on a la Côte d'Ivoire, on a le Cameroun. On a plusieurs pays, le Sénégal, etc., le Maroc, etc. Mais c'est juste le manque d'informations. Donc, j'espère que je réponds à ta question.
Oui, clairement, clairement. Et
Ouais.
justement, c'est ce qui se dégage un petit peu à chaque fois que je pose cette question. C'est ça, c'est le manque d'information, le fait d'être un peu frustré aussi, d'avoir l'impression que, tu vois, la France, quand tu le poses sur une carte du monde, c'est la taille d'une cacahuète. Et pourtant, à chaque fois que tu parles français, dire, ah, tu viens de France. Alors que je pense qu'il y a des pays qui sont grave, grave, grave plus grands que la France, que certaines personnes ne connaissent pas du tout parce que c'est des pays qui sont en Afrique ou c'est des pays qui font pas assez la une des journaux pour les bonnes raisons ou quoi que ce soit. Et du coup, on a tendance à les mettre de côté et à oublier que bah, la France est venue coloniser ces pays-là il y a longtemps et que le reste de cette colonisation, bah, c'est aussi de parler français. Alors la colonisation, il y a des bons et des très mauvais côtés, on est d'accord. Mais voilà, ça, les gens ont tendance à oublier que voilà, il y a des pays d'Afrique où on parle complètement le français et que bah ouais, en fait, ils viennent pas forcément de France, ces gens-là, ils viennent d'un pays du continent africain, et au contraire, la francophonie, c'est ça, en fait. C'est, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de beau dans ce truc, c'est que, si on se met tous autour d'une table, on saura jamais dire lequel parle français ou lequel ne le parle pas, parce qu'on aura tous une tête différente. Celui qui vient de France, celui qui vient de Belgique, celui qui vient du Congo, celui qui vient de, comme toi, de Côte d'Ivoire, quelqu'un qui va venir d'Haïti, on aura toute une tête différente, on va tous parler le français, mais on va tous avoir des petites spécificités sur notre français, tu vois, comme tu disais. Vous, en Côte d'Ivoire, vous avez cette façon particulière à vous. Moi, je viens de Paris, de région parisienne. J'ai ma façon à moi aussi de parler. Quand je parle avec quelqu'un qui vient de Belgique, elle aura sa façon aussi de parler. Et je trouve que c'est ça qui est cool, c'est de faire que autour d'une seule langue, il y a toutes ces cultures qui se mélangent. Et je trouve que ça fait un petit peu la passe. Tu vois, genre, toi, tu vas connaître un peu des trucs de la culture française. Toi, tu vas connaître un peu des trucs de la culture suisse. Toi, un petit peu des trucs du Mali. Et du coup, ça fait que tous ensemble, on fait une belle unité. Alors, Madérose, on va passer à la deuxième partie de cette entrevue. Ça va plus être comme un
Continue.
quiz. Donc, je voudrais que, quand je te pose une question, tu me répondes assez spontanément avec la première chose que tu as en tête. OK?
Ok.
Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je le dis toujours, il n'y a jamais de mauvaise réponse.
Okay.
C'est toi qui me dis ce que tu penses. OK?
Ok.
Si je te dis l'acteur ou l'actrice comédien, comédienne, la plus connue de Côte d'Ivoire, c'est qui?
Go, Michel.
OK, ça a été rapide.
Oui.
C'est une actrice de cinéma ou de télévision?
C'est un acteur télé.
Ah, c'est un acteur, pardon.
Comédien.
OK. Maintenant, musique. Si je te dis chanteuse, chanteur plus connu de Côte d'Ivoire.
Didi
OK, j'aime bien, ça va vite là.
B.
Un film culte. Alors, c'est soit un film ivoirien méga connu que tout le monde a déjà vu, ou alors un film qui parle de la Côte d'Ivoire et qui la met en avant pendant tout le film. Ça peut être les deux.
Les coups de la vie.
Eh, tu vois, au final, ça répond très rapidement. J'aime bien, j'aime bien. Alors, on en a parlé un petit peu déjà tout à l'heure. On parlait de plats un peu typiques de la Côte d'Ivoire. Est-ce que justement, tu pourrais nous parler du plat? Je sais qu'il y en a toujours plein, c'est toujours un peu compliqué, mais si tu devais en choisir, allez, deux max, de plats vraiment que si tu vas en Côte d'Ivoire et que tu goûtes pas ça, t'as raté ton truc, quoi.
Le garba. Tu vas encore dire, tu goûtes pas le garba, c'est que t'es, c'est que ça sert à rien. Vends ton billet.
Vends ton
C'est
billet.
vraiment à rien. C'est le
Rappelle-moi comment
garba.
c'est composé ce plat.
C'est composé de la semoule de manioc fermentée qu'on appelle la tieke, avec le poisson thon salé. On accompagne avec ça, avec l'oignon, la tomate et le piment. On peut ajouter le cube magique pour ceux qui mangent le cube. On peut juste mettre le sel avec la mayonnaise pour ceux qui aiment.
Mais est-ce
Sans
que
oublier de l'eau
justement,
bien glacée avec du coca bien glacé.
ben justement, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que j'allais dire, et si on devait parler boisson pour accompagner, ce serait quoi la boisson emblématique que tout le monde boit en Côte d'Ivoire?
Du coca. La boisson que tout le monde boit en Côte d'Ivoire, c'est plus le coca. hormis le vin, le champagne et tous les autres alcools et tout, mais c'est plus le coca.
Ok, pas de bissap
Ouais.
en Côte d'Ivoire?
Il y a le bissap, il y a le bissap, il y a le nyamankou, le jus de passion, le jus de tomi, etc. Mais après un bon plat d'attiéké, c'est toujours bon d'accompagner avec de l'eau bien glacée, pas l'eau tiède, mais l'eau bien glacée avec un coca aussi bien glacé.
Et est-ce que tu arrives à justement trouver des restaurants ou des endroits où tu peux justement avoir la chance de manger ces plats-là? Ou c'est un peu compliqué et au final tu fais plus confiance au plat de ta mère?
Bon, j'ai fait les recherches, j'avais trouvé juste deux restaurants ivoiriens ici à Toronto. Je fais pas la promotion de quelqu'un, c'est juste le plateau et puis l'autre restaurant s'appelle l'Instant du Palais. J'ai eu
Ouais.
à déguster les plats de juste l'Instant du Palais. Je suis allée au moins 5 fois ou 6 fois et j'ai même recommandé à mes amis, que ce soit camerounais, congolais, ils ont même goûté au garba parce que j'en avais tellement parlé à l'université. Est-ce que vous avez goûté le garba? Est-ce que vous avez déjà goûté l'attiéké? D'autres disent non, on n'a jamais goûté ça. Ils essaient de faire les liens avec les différents plats au pays. Je dis non, ça c'est juste unique en fait. Il faut que vous goûtez. Donc c'est comme ça, je les ai envoyés découvrir l'Instant du Palais. Et on a mangé ensemble la tiéké. Il y avait même du bissap. Il y avait même du yaourt, façon faite de la Côte d'Ivoire. Il y avait même des brochettes. En tout cas, c'était vraiment. C'est une Ivoire. Déjà, même quand tu arrives, tu sens vraiment la Côte d'Ivoire. Tout ça, donc.
Tu sens la chaleur humaine un petit peu que tu
Vraiment,
retrouves.
oui.
Alors, Madero, si je te dis, voilà, j'ai pris mes billets d'avion, je m'envole en Côte d'Ivoire, mais par contre, je ne sais pas trop quoi visiter. Qu'est-ce que tu me recommandes comme endroit touristique ou endroit naturel à voir? Bref, un truc que je dois absolument pas rater pour pas gâcher mon voyage en Côte d'Ivoire, ce serait quoi?
Déjà, quand on part en Côte d'Ivoire, s'il y a un lieu touristique que les gens aiment, c'est plus Assini. Assini, c'est une ville bordée de plages, lagunes, lacs, etc. Où tu as des restaurants, tu as des hôtels. Il y a tellement une belle vue, je sais pas comment dire. Quand je parle, il y a la nostalgie de mon pays, j'ai déjà les images. Donc, je pourrais dire déjà, Assini, c'est un très bel endroit pour déjà se reposer, profiter avec ses proches, s'ambiancer, bien manger, etc. Assini, c'est une ville à
Ok,
ne pas manquer. Il y a
je
aussi
mets ça sur ma liste.
les plages du Grand Bérébi, de Grand Bassam, de Sassandra, de Bingerville, je sais pas, de Jacqueville. Il y a plusieurs plages. Et vu qu'il fait chaud, on aime tout le temps aller à la plage, tout le temps. Il y a aussi la basilique. Je vais pas parler de tous ces lieux sans citer la basilique. Ça fait partie des plus grandes basiliques de l'Afrique de l'Ouest. Et là, c'est vraiment un lieu touristique très formidable à visiter. Aussi, il y a la cathédrale du Plateau. C'est aussi une cathédrale catholique. La basilique aussi est catholique. La cathédrale est catholique. C'est aussi un lieu à visiter. Là aussi, bon, il y a quand même plusieurs lieux déjà. Je peux dire, pour moi, tous les lieux sont touristiques. Je peux pas aller à Abidjan sans essayer d'aller un peu partout. Je dis, étant à Abidjan, tu ne dois pas rester chez toi, vraiment. C'est comme si tu gaspilles ton temps, tu perds des, tu n'utilises vraiment pas ton temps, en fait. Parce que même 1 heure de temps, tu peux te retrouver dans une autre ville ou bien dans un autre quartier et vraiment profiter. Profiter parce que c'est toujours l'ambiance. Matin, midi, soir. Il n'y a pas de sommeil. On ne fait que profiter seulement. Donc, tous les lieux sont touristiques pour moi.
Si on parlait de sport, alors je pense que la question elle est facile vu l'actualité sportive en Côte d'Ivoire, mais c'est quoi le sport le plus populaire en Côte d'Ivoire?
Le foot, je dis le foot, parce que les
Ouais.
enfants, même dès le bas âge, à 2 ans, 3 ans, dès qu'ils marchent, ils sont toujours avec les petits ballons. Tout ça, c'est plus le foot. Ouais, c'est pas le football, c'est le basket ou le karaté.
Ah, le karaté aussi, c'est
Oui,
populaire?
oui. Parce que moi, j'ai eu à faire le karaté, précisément le taekwondo, quand j'étais plus jeune. Donc, mais mes frères, eux, ils jouent au foot.
Okay. Et si je te dis une expression typique de Côte d'Ivoire, genre t'es dans la rue, t'entends quelqu'un dire un truc et tu te retournes et tu dis waouh, elle c'est sûr qu'elle vient de Côte d'Ivoire, ce serait quoi comme expression? Et traduis-nous-le si c'est dans un dialecte différent ou quoi que ce soit.
J'ai dit. Peut-être si c'est quelqu'un, peut-être toi qui pars comme ça en Côte d'Ivoire et quelqu'un te voit et m'a dit, chier, la petite Lazo, hein? Tu vas pas comprendre ce qu'il dit. Ça veut dire, ah, mais elle est vraiment jolie. Elle est vraiment jolie. Donc, il y a plusieurs expressions et tout.
Ok, et si
Bon.
tu devais dire un stéréotype sur les Ivoiriens? Alors, à chaque fois, je reprends cette question en expliquant un peu plus, parce que quand on dit stéréotype, on a tendance à penser à un truc négatif. Pas forcément, ça peut être la chaleur humaine, ça peut être nous, on est des grands blagueurs. Ou alors, je prends toujours l'exemple de Paris, parce que au moins, je tape sur les gens que je connais. Mais par exemple, nous, à Paris, on est des grands blagueurs, mais on est surtout des gros relous, comme on appelle chez nous. C'est-à-dire que nous, on va tout le temps être pas contents, il y a toujours un truc à redire, on va faire la grève. On ouvre notre bouche peut-être un peu trop, mais voilà. À côté de ça, on est très drôle. Ça peut être très drôle, mais ça peut être aussi très chiant. Mais voilà. Qu'est-ce que ce serait pour toi le cliché, le stéréotype un peu général sur les gens de Côte d'Ivoire ou la Côte d'Ivoire en tant que telle?
Je préside l'attachement. Bon, pour ceux qui comprennent pas, je préside, comment je dis, on a tendance à se moquer au point où on veut te faire mal, en fait, et on va vraiment l'atteindre. Par exemple, te huer. Donc c'est quelque chose qui est très facile parce que dès le bas âge, on joue à des jeux, par exemple des jeux d'injures, où je vais t'insulter, tu vas m'insulter, au fur et à mesure, on s'insulte. Et plus on grandit et ça, on se rend compte que même parfois, quand on parle normalement, d'autres pensent qu'on insulte ou on leur parle mal, on veut leur manquer de respect. Pourtant, c'est pas ça, c'est juste l'habitude. C'est notre façon pour nous de rigoler. Entre nous, on peut partir, on peut dire, oh. Oh non, l'imbécile, etc., les gros mots. Mais c'est pas nécessairement pour faire mal. Mais si c'est vraiment pour huer quelqu'un, attacher quelqu'un, comme on dit, on est vraiment très fort dedans. Et c'est l'un des stéréotypes qu'on donne souvent à la Côte d'Ivoire. Ça veut
Ok.
dire, en termes de clash et tout, on te donne un pays contre la Côte d'Ivoire. Ça, faut savoir déjà que la Côte d'Ivoire les a déjà éteints.
Tu
On est très fort pour vanner les gens, en fait.
aimes bien, châtie bien, quoi.
Oui.
Il y a combien d'heures de vol entre Toronto et la Côte d'Ivoire? Et est-ce que c'est des vols directs où il faut transiter par quelque part? Et s'il faut transiter par quelque part, il faut transiter par où? Montréal, l'Europe? Dis-nous tout.
Alors, je pense que c'est 24 heures, non? 24 heures ou plus. Parce que quand moi je suis venue, j'ai fait escale à Paris. Et de Paris, je suis venue. Il n'y a pas de vol direct. Je dois faire forcément escale quelque part, peut-être je sais pas, peut-être à Bruxelles, je sais pas. Tu dois
Ouais,
faire
soit en
forcément escale
Europe.
quelque
Et
part.
est-ce que tu sais, remarque, s'il y a des vols qui sont directs jusqu'à Montréal ou il n'y a pas de vol direct depuis la Côte d'Ivoire au Canada?
Non, il n'y a pas de vol direct. Je
Ok.
pense que peut-être c'est parce que le voyage est long. Sinon, il n'y a pas de vol direct.
Et c'est quoi la capitale de la Côte d'Ivoire pour ceux qui n'ont pas compris depuis le début, parce qu'on l'a déjà donné le nom, mais rappelle-nous, c'est quoi la capitale de la Côte d'Ivoire?
Bon, la capitale était Yamoussoukro. Je sais pas si c'est toujours Yamoussoukro. Soit j'hésite entre Yamoussoukro et Grand Bassam. Je sais pas. Je sais pas vraiment si c'est toujours ça.
Ok, moi je pensais que
J'hésite
c'était
encore.
Abidjan, mais alors du coup pas du
Abidjan?
tout.
Abidjan est devenu la capitale? Je sais pas.
Bah pour moi, je pensais que c'était ça la capitale vu que
C'est
la
une
Coupe
grande
d'Afrique est
ville.
passée là-bas. Je pensais que c'était la grande ville capitale, mais peut-être que c'est juste une grande
Bon,
ville.
la Coupe d'Afrique ne s'est pas passée seulement à Abidjan. Il
Oui,
y a
mais comme
aussi
la
c'est passé
finale, le début, tout ça, c'était là-bas, je me suis dit que c'était la capitale, mais peut-être je me suis trompée.
parce que moi je sais que la capitale c'était Yamoussoukro. Après, je pense Abidjan aussi était une capitale. Sinon, je sais que la grande capitale de la Côte d'Ivoire c'est Yamoussoukro. C'est là où il y a la grande basilique. L'une des plus, je sais pas s'il y a une basilique comme ça, mais je sais que c'est l'une des plus grandes basiliques de l'Afrique de l'Ouest.
Et il y a
Donc,
combien d'heures de décalage entre la Côte d'Ivoire et Toronto?
actuellement, c'est 5 heures. Actuellement, c'est 5 heures. Je pense
Ok.
que pendant les, après, ça change, après, c'est 4 heures, 5 heures, mais actuellement, c'est 5 heures.
Et est-ce qu'il y a des dialectes en Côte d'Ivoire? Et si oui, il y en a combien? C'est quoi le nom des dialectes?
Oui, il y a au moins 63, 63 ou 65.
C'est précis comme chiffre.
Oui, c'est pas assez, contrairement à d'autres pays qui en ont 200 ou 300. Nous, on n'a que 65. Les dialectes les plus entendus en Côte d'Ivoire sont le Djoula, le Baoulé, le Bété et tout ça. Bon, moi, je suis Annie Baoulé. Je parle pas forcément ma langue parce qu'on m'a toujours parlé français depuis petite. Mais je comprends certains mots comme ça pour. Quand on parle peut-être Djoula, Djoula c'est plus des musulmans. Donc quand on parle Djoula, je peux comprendre parce que c'est le dialecte le plus parlé en Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau du marché, etc.
Et comment on apprend cette langue? Est-ce que c'est un truc qu'on On apprend par la famille, donc c'est genre de génération en génération, on l'entend à la maison, on l'apprend comme ça, ou à l'école, on vous donne des cours un petit peu de dialecte, de langue un petit peu régionale comme ça pour que justement ça perdure dans le temps.
Non, à l'école, on ne donne pas des cours de dialecte. C'est plus l'entourage, la famille. Comme je dis, aussi au marché, quand tu pars au marché, quand tu sors, il y a plusieurs, on entend plus le djula. Donc, pour apprendre le dialecte, c'est plus peut-être au niveau de la famille, ou bien si l'entourage parle tout le temps. Moi, comme ça, quand j'étais à l'école, à l'internat, je dormais avec 4 filles. Et ces 4 filles parlaient tout le temps djula. Donc, tout le temps, elles parlaient djula. À un moment, ça me frustrait parce que je me disais, j'arrivais pas à parler comme elle aussi. Donc, et c'est un mot que je comprends pas et tout. Mais au fur et à mesure, j'ai voulu apprendre. Donc, quand elle parle, je peux essayer de comprendre. Je lui ai dit, ah bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et ce que j'ai vite appris, ce sont les injures. Vous avez dit qu'on peut pas m'insulter, Andjula. Parce que si tu m'insultes, je vais te répondre.
Est-ce qu'il y a un habit traditionnel en Côte d'Ivoire et ce serait quoi?
Habit traditionnel. Le pankita, c'est chez les peuples, le peuple akan, le grand peuple akan. Je connaissais plus le pankita au niveau
Et comment ça se
traditionnel que
compose?
représenté. C'est juste composé, le haut, c'est juste un dentelle, le dentelle blanc, et le bas, c'est le pagne. Le pagne est super lourd. On le double. Ça veut dire quand tu veux le porter, tu l'attaches ici à la poitrine, et à ta taille, tu mets une corde et tu fais descendre le pagne. Afin que ça soit lourd, que tu sois vraiment, comment je vais dire ça, gonflé vers le bas. Non, c'est vraiment comme ça et tout. Et
Est-ce
en
que c'est
bas.
des vêtements que tu portes pendant des cérémonies de mariage, des trucs un
Ouais, c'est
peu
plus
plus...
pendant les cérémonies. C'est plus
Ouais,
pendant
c'est
les
pas un truc que
cérémonies.
tu portes genre le dimanche pour sortir, quoi.
Bon, le dimanche, pour quelque chose qui est déjà de base lourd, et il y a la chaleur, c'est pas très agréable de porter ça tout le temps. Mais les dimanches, on a plus l'habitude de porter les habits en pagne. Parce que les dimanches, on va à l'église. Donc, on porte plus les habits en pagne. Mais pour ceux qui partent à la mosquée, il y a le bazin qui est beaucoup porté. Mais comme habit traditionnel, c'est plus le pankita qui est
Mais est-ce qu'il y a
reconnu.
des danses traditionnelles également?
Danse traditionnelle? Bon. Oui, il y a des danses traditionnelles, oui. Des danses traditionnelles, mais bon. C'est nous, actuellement, avec la jeunesse, on a nous-mêmes nos propres styles de musique. On a nos propres styles de danse, des danses super, super énergétiques. Si t'as pas l'énergie, tu peux pas danser. Donc, on se... Non, on compte pas trop. Genre, ça nous intéresse pas trop la danse traditionnelle. C'est plus le. Bon, on a plusieurs styles de musique, par exemple le reggae, le coupé décalé, le zouglou, etc. Mais nous, les jeunes, on a nos styles de musique, par exemple le maïmouna, le biama, tout ça. Ce sont des styles de musique accompagné des danses vraiment énergétiques. Et c'est ce qui fait remuer actuellement la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que même les vieux, que ce soit nos parents, nos grands-pères et tout, eux tous, ils sont vraiment choqués par l'ampleur de ce nouveau style musical. C'est ça qui fait vraiment remuer la Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui connaissent pas vraiment le Maïmouna, tout ça, c'est ce qui a été mis à la canne. Comme on a dit, coup du marteau, tout ça.
C'est quoi l'hymne national en Côte d'Ivoire? Alors, je te demande pas de chanter, tu peux pousser la chansonnette hein, si tu le veux, mais dis-nous plutôt c'est quoi le titre de l'hymne national et de quoi ça parle de manière générale?
C'est l'habit jeunesse. Je pense que ça parle. Bon, ça déjà, ça montre, ça décrit déjà la Côte d'Ivoire. Ça montre que la Côte d'Ivoire, c'est. Ça montre déjà l'hospitalité de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, désolé, est un pays très réputé pour son hospitalité, que ce soit. Il accueille. Les gens de divers
Tout le monde est
pays,
bienvenu, quoi.
tout le monde est tout le monde est bienvenu en Côte d'Ivoire. Et bon, je pense que l'hymne national vraiment met en relief l'hospitalité de la Côte d'Ivoire.
Et le
Et aussi,
drapeau, il ressemble à quoi?
le drapeau est orange, blanc, vert. Orange, bon, j'ai vraiment oublié la définition des couleurs, parce que ça fait quand même 2 ans où j'ai pas encore chanté et tout ça. Mais j'ai vraiment oublié mais je sais déjà la devise. C'est union, discipline, travail.
Et est-ce que tu trouves que ce truc de, comme on va dire, une citation ou un symbole autour de ce drapeau avec ces mots, ça colle un petit peu justement à la population ivoirienne?
Oui, déjà quand on prend la devise, union, discipline, travail, on sent une certaine unité en Côte d'Ivoire. que tu sois, quel que soit le besoin, il y a toujours des gens pour t'aider, il y a toujours des gens qui sont là autour de toi. Tu peux jamais être seul. On sent vraiment l'union. La discipline. Si on prend à l'école, bon, en vrai, je vais être honnête. Si on veut comparer avec d'autres pays, parce que c'est en fonction de ça, on peut voir si on est les plus disciplinés ou pas. Mais quand même, il y a une certaine rigueur, une certaine discipline. Surtout à l'école, on le voit. Et le travail, on a déjà une conception des choses. On dit, si tu travailles pas, on dit, si tu travailles pas, tu ne pourras rien gagner. On récolte ce que l'on sème. Donc, si tu
Bien
veux,
ça.
il n'y a vraiment pas de paresseux. Autant tu manges, c'est-à-dire de la manière qu'on aime manger, c'est comme ça aussi, on aime travailler. On travaille beaucoup là-bas. Soit que ça soit sur le soleil, soit la pluie, on voit toujours les gens de travail. Toujours.
Et avant qu'on se quitte, Madérose, est-ce que tu aurais quelques mots à dire, que ce soit à la communauté ivoirienne ici à Toronto, à la communauté francophone de manière générale, ou aux nouveaux arrivants, voilà, qui peuvent se poser plein de questions en arrivant? Un peu comme toi, quand on est dans cette vingtaine, la jeunesse, qu'on arrive dans une ville qu'on connaît pas forcément, qu'on arrive avec sa famille ou pas. Bref, qu'est-ce que tu as envie de dire aux auditeurs de Choc FM 105.1 avant qu'on se quitte, ma chère Madérose?
Je pourrais dire aux auditeurs de chaque FM que, comme j'ai dit depuis le départ, quand t'es pas informé, tu ne connais rien, sors toujours de ta zone de confort, prends des repères, cherche des personnes avec qui tu pourrais interagir. C'est même pas obligé que tu sois forcément en Côte d'Ivoire. Tu trouves forcément des gens de Côte d'Ivoire. Il y a des gens, que ce soit au Congo. Tout ça, c'est l'Afrique. C'est la beauté de l'Afrique, en fait. Donc, tout ce que je pourrais dire, c'est à quoi bas? Comme on dit chez nous, à quoi bas? Donc, bienvenue. Courage. Les Ivoiriens sont un peu partout.
Eh ben, merci beaucoup, Madérose, d'avoir partagé avec nous ton histoire et puis un petit peu de ta culture ivoirienne. Moi, j'adore apprendre plein de trucs. Même s'il faudra qu'on revérifie quelle est la capitale de la Côte d'Ivoire parce qu'on n'est pas sûr.
Non, mais en fait, c'est Yamoussoukro. Parce que, attends, je fais une petite recherche. La capitale de la Côte d'Ivoire. On met Yamoussoukro. Entre parenthèses, Abidjan demeurant capitale économique.
Ok, donc c'est un petit peu
Sinon,
comme ici au Canada, on va
Yamoussoukro
dire que
est la
Toronto, c'est la grosse ville et que
Exactement.
Ottawa est la vraie capitale, en fait.
Exactement. Voilà. Toronto, comme on voit ici, Ottawa, c'est la capitale. Mais Toronto, peut-être la capitale économique. C'est la
Ouais.
grande ville et tout. Abidjan, c'est la capitale économique de Côte d'Ivoire.
Et ben voilà, on a résolu le mystère avant de finir cette émission. Merci encore beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous, Madé Rose. C'était donc Nathalie Salmeron dans ce nouvel épisode de Racine Franco. Et je rappelle que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. À très bientôt et encore merci, Madé Rose. Ciao.
Merci Nathalie, au revoir.
Vous écoutiez Racine Franco sur Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en réécoute à la demande, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.